It's a go. Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro de cette 66e émission d'Au fil du temps, l'émission qui ouvre la porte aux conseils d'autres générations. Et si cette autre génération, c'était vous, dans le passé? Si vous pouviez retourner à l'époque où vous étiez un fringant jeune homme ou une jeune fille complexée ou super débordée par toutes sortes d'activités, quels conseils vous donneriez-vous? C'est enfin une question complexe, parce que nous sommes maintenant le résultat de nos bons coups du passé, mais aussi de nos échecs. J'imagine que l'exercice d'écrire sa biographie doit être particulièrement troublant parce qu'on voit les liens qui ont tissé notre parcours de vie. En même temps, ce serait bien si on pouvait avertir notre jeune moi en lui disant « Tiens bon, ça va finir par bien aller et un jour tu vas décider d'aller vers le bonheur malgré un départ difficile ». C'est le cas de notre premier invité cette semaine, un acteur merveilleux qui nous a autant fait rire que pleurer, qui a fait mille et un métiers, s'est lancé en affaires commerciales mais aussi sociales, un homme d'une grande résilience, écrit notre dodo national Dominique Michel dans la préface de « Délinquant un jour, artiste toujours ». C'est en fait le récit de vie intime de Michel Forgette, qui a personnifié de nombreux personnages au théâtre, au cinéma, à la télé et même dans des publicités. Pourtant, il n'y a rien qui prédestinait Michel Forgette à être acteur. Disons qu'il n'était pas parti pour la gloire. Il a fallu un séjour à Boscoville, un centre de rééducation unique à l'époque, pour tout changer. Alors qu'un bon bouffon de la classe, Michel personnifie Scapin dans les fourberies de Scapin, Boscoville reçoit un illustre invité, l'homme de théâtre Jean-Louis Roux. Ce dernier lui dit « Michel, si t'as un jour le goût de faire ce métier-là, n'hésite pas à m'appeler. » Pourtant, en sortant de Boscoville, Michel Forgette renoue avec les petits boulots. Vider un camion de viande chez Hargrave ou emballer des vêtements dans des boîtes de carton pour 60 sous l'heure. Sa mère, Marie-Marthe, lui rappelle l'invitation de Jean-Louis Roux et heureusement, il l'a appelé pour notre plus grand plaisir. Si Michel Forgette n'était pas très sage à l'époque, il s'est bien repris en prenant entre autres une très grande décision il y a 40 ans, celle d'arrêter de boire, à un moment charnière où il a aussi fait la connaissance de sa deuxième femme, Marie Desmarteaux, qui a collaboré à sa biographie. Nous allons d'ailleurs causer de sagesse en deuxième partie d'émission. Et pas n'importe laquelle, la sagesse du Showa, une philosophie japonaise sur la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. Le livre « Le pouvoir du Showa », c'est un peu le testament de Akemi Tanaka, qui est malheureusement décédé quelques mois après la parution de son livre aux éditions Hugo et compagnie. Nous avons demandé à une grande amoureuse du Japon, vous aurez deviné, la sociologue Valérie Harvey, que l'on a reçue à quelques reprises à cette émission, de le lire pour nous et de le commenter. Alors c'est le menu que je vous propose pour cette 66e émission, que l'on ouvre avec une chanson parfaite pour introduire une biographie, « C'est ma vie » d'Adamo.
Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur. De chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis.
paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quand à mon firmament j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Savent que tu me tiens. Devant toi sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste, quand parfois j'ai cœur gros, je te laisse sacrifier. Et devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie.
C'est ma vie, d'Adamo. La première fois que j'ai vu Michel Forgette, c'était dans des habits carottés de Mario Duquette, le comptable agréable du tac au tac. Si Michel Forgette est doué pour nous faire rire, et il l'a fait pendant un quart de siècle, entre autres dans les théâtres d'été, il s'est aussi illustré dans des rôles plus dramatiques. Pensons entre autres à Bonheur d'occasion, Virginie, Les tisserands du pouvoir, L'Anse et Comte, et dernièrement, comme Papy Léo dans District 31. Il joue d'ailleurs un rôle de grand-père dans la vie auprès de ses petits-enfants qui vivent en Angleterre. Rencontrons celui que sa mère appelait son grand veau pour parler des leçons de vie de sa biographie. Bonjour Michel.
Bonjour Chantal.
Son grand veau.
Oui, je n'ai jamais compris pourquoi, parce que je travaillais tout le temps, mais ça a l'air que peut-être qu'il y a des veaux qui travaillent fort.
Moi, ma mère m'appelait sa grande biche, j'ai jamais compris non plus.
Bon, et on va leur laisser le secret.
Oui, c'est bon. Et là, il y a des secrets, en fait, qu'on découvre dans votre biographie. En tout cas, pour moi, la richesse de votre parcours m'a vraiment interpellée. Le titre, d'ailleurs, hein, on dit « artiste toujours », clairement, et « délinquant un jour ».
Oui, oui.
Hein? Vous dites que votre mère, Marie-Marthe, elle a dû prendre une décision qui a changé votre vie.
Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, j'imagine qu'elle a eu peur. Et j'avais, oh mon Dieu, 15 ans, je pense. Mm. Et elle savait pas où aller, puis finalement... elle s'est ramassée à la cour juvénile. Là, il n'y avait pas de DPJ à l'époque.
Ouais.
Et là, elle a raconté son histoire, qui était un peu la mienne aussi. Et à l'époque, j'ai été arrêté, amené à la cour juvénile. Là, j'ai subi une batterie de tests, là, les images avec, on a l'impression que c'est des mouches, puis en tout cas, un test qui était à la mode pour savoir quel genre d'individu j'étais. Puis finalement, on a décrété que j'étais mieux de continuer mes études à Boscoville que d'aller au Mont-Saint-Antoine apprendre un métier.
Mm-hmm.
Et ça, ça a été... et je le dis dans le livre, d'ailleurs, parce qu'elle avait toujours un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ça. Et non, j'ai dit, t'as fait la bonne chose, parce que mon séjour à Boscoville a complètement réorienté ma vie, m'a permis de partir faire d'autres choses. Ça a été long, je suis passé par toutes sortes de... Mais en restant honnête, si on veut, là, en, et puis pour aboutir finalement... comme comédien dans les années, je pense, 72-73. Mais j'avais, quand je suis arrivé dans le métier d'acteur, j'avais 30 ans passé.
Mm-hmm.
J'avais fait des études, mais j'ai abandonné tout ça pour suivre ma première femme en Angleterre, qui était anglaise. Et ça n'a pas fonctionné. Je suis revenu au Québec éventuellement. Et par un concours de circonstances... je travaillais dans un hôtel du Nord et il y avait un théâtre d'été attenant l'hôtel, l'hôtel Sun Valley. Et il y avait Monique Lepage, qui était une comédienne qui était fort populaire à l'époque. Et puis, qui me connaissait du temps que j'étais à l'école puis au conservatoire. Puis qui m'a dit, mais t'avais du talent, voyons, c'est pas parti ça.
Mm-hmm.
Pas passer ta vie faire un barman. T'sais. Et grâce à elle, j'ai hérité d'un rôle dans le premier film d'André Melançon.
Mm-hmm.
Et c'est comme ça que c'est parti. Ça, tranquillement, j'ai eu des petits rôles au théâtre. Ensuite, à Radio-Canada, la petite semaine, la petite patrie. Puis éventuellement, on commençait à parler de moi dans la bâtisse, à Radio-Canada. Et éventuellement, une audition pour du tac au tac.
Mm-hmm.
Puis Mario Duquette, puis là, bien évidemment, ça a parti joyeux, ça a galopé. disons que ça m'a mis au monde.
En tout cas, moi, c'est là que je vous ai rencontré télévisuellement
vous étiez bien
pour
jeune.
La première fois. Oui.
Vous deviez être bien jeune.
Je l'écoutais avec mon père qui exerçait ce métier d'une manière ou d'une autre, donc il y avait un lien. Mais je sais que déjà à Boscoville, vous aviez eu la présence là, d'un grand homme de théâtre qui avait identifié ce talent, un talent brut chez vous.
Oui, j'étais parmi les activités à Boscoville, il y avait des activités théâtrales et chaque quartier, parce que Boscoville se bâtit comme une ville, il y avait quatre quartiers, produisaient une pièce. Et dans notre cas, ça a été des fourberies de Scapin. Et j'ai joué Scapin parce que, bon, j'étais le bouffon. Et Jean-Louis Roux avait été invité. Et il m'a dit tout bonnement, après la pièce, si un jour tu veux faire ce métier-là, n'hésite pas, téléphone, appelle-moi. Et bon, ben j'ai trouvé ça bien gentil, tu sais, ça m'avait touché. Mais j'ai pu repenser à ça. Puis quand je suis sorti, ben de Boscoville, j'ai travaillé. C'était pas des jobs ben le fun, tu sais. Pacter des vêtements dans des boîtes de carton.
Ouais.
Shipping, mettons que c'est long un peu. Et puis là, ma mère m'a rappelé ça. Je ne sais plus si c'est ma mère ou ma grand-mère, parce qu'on vivait ensemble. Et j'ai appelé avec les trémolos dans la voix, là, la nervosité, j'ai appelé au TNM.
Ouais.
Et à ma grande surprise, j'ai laissé un message. Et le soir même, j'ai eu un retour d'appel. Et ma grand-mère, qui a répondu au téléphone, a mis sa main sur le récepteur et a dit, « C'est M. Jean-Louis Roux.
» Le cœur, hein, devait vous débattre.
Puis, si je veux pas, c'était intimidant, parce que Jean-Louis Roux avait... Bon, c'est l'époque de la famille Plouf, là, tu sais. Bon. En fait, c'était un petit peu après, mais Jean-Louis Roux avait toujours... C'était un homme de théâtre plutôt classique, si on veut.
Mm-hmm.
Et là, il m'invite à aller à une répétition du TNM le samedi matin sur la rue Sanguinette, un peu au sud de Sainte-Catherine. Et je m'y rends, puis là, j'ai vu tout ce qui était au TNM à l'époque, que ce soit Denise Pelletier, Guy Hoffman, Denise Saint-Pierre, mon Dieu, Jean Gascon, Gabriel Gascon, tout le monde... tous ces gens-là jouaient dans les productions. Et je pense qu'ils répétaient un Molière. Et j'ai assisté à ça. Et j'ai, bon, tout le monde était très gentil avec moi. Jean-Louis leur avait un petit peu raconté mon périple. Et bon, et ça a commencé comme ça. Ça m'a donné le goût.
Oui.
Et il a monté une pièce par la suite, un petit peu plus tard dans l'année, avec que des jeunes comédiens qui entouraient un comédien qui était bien connu à l'époque, qui est décédé maintenant, Georges Grou. Les plus vieux vont se rappeler qui était M. Grou, qui était un habitué du TNM, Georges.
Oui.
Et j'ai pris part à ça. Et suite à ça, l'École nationale de théâtre a été fondée par Jean Gascon. Et j'y suis allé, on m'a accepté. Mon Dieu. Je devais passer une audition, mais j'ai pas eu le temps de dire grand-chose, que Jean Gascon m'a fait venir dans la salle. Puis il m'a fait un petit peu jaser, parler de mon histoire, puis il m'a dit, écoute, tu vas être accepté, on commence en septembre, prépare-toi.
Michel, il y a une personne aussi que vous évoquez qui a joué un grand, grand rôle dans votre vie, c'est votre grand-mère.
Oui, bien, ma grand-mère, là, pour... c'était un peu comme Boucard Diouf avec son grand-père.
Oui.
Moi, c'est ma grand-mère. Tu sais, ma grand-mère, là, c'était pas compliqué. C'était... je disais, je me sens malade le matin. Hey, on est trop pauvres pour être malade. Oui. On va y aller à l'école. J'ai entendu des affaires qu'aujourd'hui, on dit, tiens, un homme, ça pleure pas. Là, j'ai entendu ça de ma grand-mère, moi.
Ouais.
Un homme, ça pleure pas.
Une autre époque. Contrôle, hein?
Là. Tu sais, c'est une autre époque. Bon, c'est ça. Et puis, on a été élevés, comme ça, grand-mère, ma mère faisait office d'homme au foyer, parce que c'est elle qui travaillait. Ma grand-mère tenait une maison de chambre. On arrachait un peu. Mais c'est pas grave, ça nous apprend les bas de la vie, puis on apprécie plus les hauts quand on les vit.
Absolument.
Alors, moi, ça a été une école pour moi. Ça a été une école, je me suis débrouillé jeune, j'ai appris tout de suite à travailler, servir la messe tous les matins, le dimanche, la grande messe, la basse messe, puis travailler à l'épicerie, livrer des commandes, aussitôt que j'étais assez fort pour pouvoir pédaler avec un bicycle, avec le panier plein. Et le sens du travail, ça m'a
jamais... Vous l'avez.
Je me suis jamais... Puis je vais avoir 80 bientôt, là, dans ma 80e année, et je peux affirmer que travailler, ça fait pas mourir. Même, je pense que ça tient en vie. C'est normal d'être actif. On n'a pas... tu sais, 6 pieds, 200 livres, là, il faut que ça serve un peu. Alors, même aujourd'hui, je travaille encore, même si je travaille pas, si vous voulez, comme acteur, mais je fais mes gouttières, je nettoie, ramasse mes feuilles.
Le golf.
Je ne fais pas faire par les autres. Je le fais, moi. C'est chez nous.
Ouais.
Je fais mes affaires. Tant que je vais pouvoir, puis ça me tient en forme.
Puis si vous tenez de votre arrière-grand-mère Adélaïde, elle avait 101 ans, je crois. Quand...
oui, elle est... Adélaïde est morte à 101 ans.
Wow.
Ah, écoute, c'était... Tu sais, c'est une dame là, qui a élevé 8 enfants. Et puis qui a tenu hôtel. Et puis elle est morte à 101 ans. Et puis elle faisait encore son lit de plumes. Tous les soirs, elle faisait sa tresse. Et puis elle mangeait à peu près toujours la même chose. Petit pudding au riz avec des biscuits socialités.
À 16 heures, hein?
c'est ça, exactement, de bonne heure. Puis c'était drôle parce qu'elle regardait la télévision. Elle aimait ça, regarder la lutte.
La lutte, ben oui, j'ai appris ça.
Elle regardait la lutte, elle aimait ça. La lutte, c'était le mercredi. Après, la famille Plouf. C'était la lutte, le Michel Normandin, ça c'est bien vieux. Ça. Vos parents connaissent ça.
Oui, mon père écoute l'émission, donc il va sûrement m'en parler après.
Oui, la lutte, là, ça venait du forum. Bon, elle écoutait ça, puis c'est drôle parce que quand elle regardait des téléromans, puis qu'un couple s'embrassait, elle regardait ma grand-mère, puis elle disait...
Sont-ils mariés?
Ils sont mariés, hein?
Michel, on va aller en musique. On va aller en musique, puis c'est une chanson de Michel Fugain qui s'appelle « Les délinquants ». Donc, on écoute ça, on se reparle tout de suite après.
OK.
Nous Nous sommes des délinquants de la pire espèce et nous méritons le carcan, il faut qu'on nous dresse.
Si on nous laisse en liberté, c'est dangereux pour la société.
Oh monsieur l'agent, soyez sans pitié, arrêtez-nous. Oh monsieur l'agent, par pitié, arrêtez-nous.
Nous avons 20 ans, c'est déjà un risque. Et les cheveux un peu flottants, c'est pas catholique.
Nous sommes le gibier rêvé pour les gardiens de la santé.
Oh monsieur l'agent, soyez sans pitié, arrêtez-nous. Oh monsieur l'agent, par pitié, arrêtez-nous.
En tant que libre citoyen, je demande que mon copain, un peu bourgeois par son papa, soit conduit au poste tout droit. Il est breton, il n'est pas riche, il ne fume pas de hashish. Je crois que c'est suffisant pour qu'il en prenne pour 5 ans.
Oh monsieur l'agent, au secours, arrêtez-moi.
Oh monsieur l'agent, au secours, arrêtez-le.
Nous ne sommes pas drogués et pas pédérastes.
Et nous sommes aussi désarmés que des monégasques.
Masturbation et sodomie ne sont pas tout dans notre vie.
Oh monsieur l'agent, voyez, il le faut, arrêtez-nous. Oh monsieur l'agent, arrêtez-nous.
À 14 ans j'étais scout, j'ai fait de l'athlétisme.
Et moi j'adore la choucroute et le socialisme. J'ai une lourde
hérédité, mon père. Les délinquants de Michel Fugain, il y en a des propos qui se disaient à une époque, qui se disent moins aujourd'hui.
Oui, oui, ça fait. Faut, aujourd'hui, il faut faire attention parce que tout, c'est comme avec enfin, tout ce qu'on entend. Oui. Contrôler l'information, puis les professeurs peuvent plus dire ci ou ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je me sens un peu dépassé, ça fait que je voulais... Ça, c'est une autre affaire de ma grand-mère. Quand t'as rien de beau à dire, tais-toi là.
Oui, j'avais noté ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le temps passait vraiment vite, puis j'ai une question que je veux vous demander. Le fait, justement, d'avoir frôlé la délinquance, est-ce que ça vous a rendu plus sensible aux sans-abri?
Ah, écoute, absolument. Puis, je ne veux pas revenir trop longtemps là-dessus, mais je n'ai jamais compris la fermeture de Boscoville.
Ouais.
J'en ai discuté avec des gens assez haut placés à la DPJ, et ce qui me donnait comme raison, j'ai trouvé ça tellement futile et superflu, je n'en revenais pas. Parce qu'on venait de partout dans le monde voir ça, un endroit où on gardait, tu sais, ils nous avaient affublés de délinquants, il n'y avait pas de porte barrée, il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de surveillance, il n'y avait pas de gardien qui se promenait aux extrémités du terrain. C'était...
La rééducation.
Oui, c'était d'ailleurs... je pense que ça s'appelait un centre de réadaptation.
Mm-hmm.
Plutôt que... Ou, pas rééducation, mais réadaptation, quelque chose comme ça. Et c'est parce que ça a donné naissance en même temps à la profession de psycho-éducateur.
Mm-hmm. Absolument.
La profession est venue au monde un peu avec Boscoville. Et, bon, moi, je parle souvent de Gilles Gendreau, le directeur, puis son assistant, M. Lapointe. C'est des gens formidables. Les psycho-éducateurs de l'époque, bon, je me souviens, 99,9% c'était des missionnaires.
Absolument.
Qui gagnaient des salaires de crevefin. Et puis, c'était vraiment par l'idéal. Et je à part un là, qui faisait un peu tâche. Mais les gens, moi je me souviens de ceux qui nous tuent, Armand Tremblay, Robert Giroux, c'était des gens extraordinaires qui étaient toujours prêts à l'écoute. Ça les dérangeait jamais. Ah, ça file pas, j'aimerais ça te parler, viens-t'en dans mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a? C'était, et moi qui n'ai pas eu de père, ces gens-là ont eu... à différents moments, des figures de père,
ouais,
des father figures, comme on dit. Et ça m'a... Ce qui a fait que j'ai toujours eu... Moi, Gilles Gendreau en tête, puis je me souviens le jour où il m'a dit, Michel, tu peux t'en aller, là, t'es prêt. il m'a serré la main, puis j'ai dit, Gilles, je te ferai jamais honte. Parce que je me disais, ceux qui s'enfargent, ben ils viennent de Boscoville, puis on savait déjà... que pour les fonctionnaires, c'était comme... Ils contrôlaient pas ça. C'est difficile d'expliquer à... Là, je vais choisir mes termes. Un fonctionnaire, je vais juste dire fonctionnaire, qu'une jambe dans le plâtre, c'est 45 jours.
Mm-hmm.
Mais une jambe dans le plâtre, ça peut prendre 2 ans. ça peut prendre 2 ans et demi, ça peut prendre 20 mois, ça peut prendre 16 mois. Il n'y a pas de critères. On repêche quelqu'un et on essaie de le replacer, mais ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je n'ai de Boscoville, peut-être quelques-uns, je ne suis pas au courant de tout le monde, mais de mon époque, quand j'y étais, j'ai recroisé des anciens.
Mm-hmm.
Et surtout des gens qui ont fait des bons payeurs de taxes. Et qui ont travaillé dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de milieux, et qui ont réussi, pas simplement sur le plan monétaire, mais sur le plan humain.
Bien, vous êtes tellement impliqué, justement, avec la Fondation pour les sans-abri. C'est 17 ans de votre vie que vous avez donné. Vous avez été un missionnaire, quasiment, dans ça.
Bien, ça a été... Bien, il faut dire qu'on était bien encadré.
Mm-hmm.
Je ne peux pas me donner le mérite que j'ai pas, mais disons qu'au début, on a parti ça, un groupe de gars, plein de bonne volonté, mais on s'est rendu compte, au bout de quelques temps... Vous savez, quand vous recevez des enveloppes avec de l'argent dedans...
Mm.
Là, vous dites, bon, ben là, j'ouvre un compte de banque, puis il faut que ça soit, tu sais, les gens se fient, ils aiment ce que vous êtes, ils ont confiance en ce que mm-hmm. vous êtes. Alors, on a eu une ouverture avec les œuvres du cardinal,
oui.
Et là, on a compris tout de suite que si on voulait être sérieux, pousser ça à fond, c'était de s'affilier, d'embarquer avec eux, et ça a amené l'affaire, et j'étais là pendant 15, 16, 17 ans, j'ai pas compté, mais assez longtemps, et j'ai poussé l'aventure jusqu'à me promener avec des travailleurs de rue pour voir qu'est-ce que c'était. Et la misère humaine, vous savez, faut la côtoyer, puis il faut essayer de... C'est très difficile, c'est pas facile. Tu sais, vous dites, il y a des sans-abri à Montréal, on va régler le cas. Non, vous réglerez pas le cas. Vous pouvez soulager leur drame, soulager les malheurs, mais vous ne pouvez pas prendre un sans-abri puis le rentrer dans un monastère puis dire, tiens, t'as ta chambre, puis tu vas déjeuner le matin, puis tu fais ça. Ça marche pas de même. Il y a des gens qui veulent plus voir le monde. Il y a des gens qui aiment se cacher la nuit. Moi,
Michel Forget, je suis obligée de vous laisser aller. Puis...
Ben, ça m'a fait plaisir de vous parler.
Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Puis vraiment, merci de tout l'engagement que vous avez redonné à votre tour. Moi, j'ai été très heureuse d'apprendre tout ce que vous avez fait. Puis ensuite, comme homme d'affaires aussi, vous avez contribué à humaniser beaucoup de secteurs. La biographie s'appelle « Délinquant un jour, artiste toujours ». Merci, Michel Forget.
C'est moi qui vous remercie.
Au plaisir, au revoir.
Ah.
Après la pause, on parle de la sagesse japonaise.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Si vous désirez réécouter certains de nos épisodes, entre autres plusieurs où on a accueilli notre prochaine invitée Valérie Harvey, on se donne rendez-vous sur canalem.vusezvoix.com ainsi que sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Balado. J'en profite pour saluer nos amis de CKVL. Et d'ailleurs, notre premier invité, Michel Forget, a déjà été animateur à CKVL. Donc vraiment, c'est une bio là, qui est remplie, très touffue. J'avais plein de questions encore pour Michel. Je vous invite vraiment à l'écouter. Et maintenant, ce que nous écoutons, en fait, on va voyager, on va aller au Japon. C'est une pièce qui s'appelle Dynamic Ryukyu. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est de Akira Ikuma et c'est en fait la famille de Valérie Harvey qui a gagné un concours en interprétant cette chanson. Donc, on vous la fait entendre et après, on parle avec Valérie Harvey sur la sagesse japonaise.
Sorayo Daichi Fuminarashi Tataku Shima no Teku no Hibiki Yo so so 気に吹かれて涙を流し罪に吹かれて明日を思う見果てぬ夢は奏でてる思い問いかける未来走るあの空へ風よ光の風よ巡る定めのしるべよ大地吹き鳴らし叩く島の手くる響き島の手くる響き島の手くる響き
ces belles voix que nous venons d'entendre, ce sont celles de notre invitée Valérie Harvey et de sa famille. Bonjour Valérie!
Bonjour! Mon Dieu, entendre notre chanson comme ça, ça m'a émue!
Ben moi aussi, quand je l'ai entendue sur Facebook, raconte-nous ça là, avant de parler de sagesse japonaise. Là, qu'est-ce qui vous a motivé comme ça, une famille, à votre famille, à chanter cette belle hymne japonais?
Ben en fait, on avait reçu l'invitation à participer à ce concours. C'est un concours de chant. Là, puis c'est la fin de l'année scolaire. Les enfants étaient déjà pas mal occupés. Je disais, mon chum, moi, je suis pas sûre que ça me tente. Mais quand on en a parlé aux enfants, notre plus grand, il a dit, ah, oh, on pourrait faire la chanson d'Okinawa. Okinawa, ce sont les îles au sud. Hein, puis oui. Léo avait beaucoup aimé son voyage. Puis cette chanson-là, on l'écoutait souvent. Donc là, il y avait tellement de motivation que je me suis dit, bon, écoute, on va participer au pire, ça va faire un beau vidéo envoyé à la famille. Mm. Puis, ils ont beaucoup pratiqué, parce qu'il fallait pratiquer les paroles, hein, il faut les chanter
C'est
sans
pas
regarder.
Simple!
Oui, puis c'est une chanson qui est connue un petit peu au Japon, mais vraiment pas à l'extérieur, donc on n'a même pas trouvé les paroles traduites et marquées dans nos caractères à nous, là, je les ai transcrits, mais ma petite, elle était même pas encore en première année, elle était pas capable de lire l'alphabet. Elle était capable de lire ABC, là, mais pas mm-hmm. de faire des liens. Donc, finalement, je lui ai transcrit, elle, en alphabet japonais. Et c'est comme ça qu'elle wow. l'a appris, parce qu'elle connaît, ses kanas, comme on dit. Donc, vraiment, ce fut une belle expérience. On s'est beaucoup amusés. Puis les enfants, ça a été un beau projet de famille, hein, parce qu'il y a la pratique mm-hmm. de la chanson, il y a l'enregistrement devant l'écran. Puis ensuite, on est allé enregistrer dehors. Donc, on a déplacé la caméra, les trépieds. Ça a été vraiment une belle aventure de famille. Fait que je me suis dit, bon, peu importe ce qui arrive avec ça, ça a été le fun. Mais on s'est rendu au concours dans les finalistes et finalement, on a fini avec le prix spécial du jury.
Oui.
Donc, ça a été très, très, très émouvant d'enregistrer ensuite l'émission au Japon en direct à 3 heures du matin.
Ben, quand on a reçu ce livre-là, le pouvoir du Showa, la sagesse japonaise, c'est bien sûr que je me suis dit, c'est clair que ça nous prend Valérie pour parler de ce livre qui semble, mon Dieu, tellement intéressant. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, Showa?
Le Cho, parce que c'est un long O, là,
okay,
il y a un trait, Choa. Mais le Wa, en fait, est utilisé partout. Donc ça, en fait, c'est l'harmonie. C'est quelque chose qui est très, très, très important dans la culture japonaise. En fait, souvent, on va même l'utiliser pour caractériser qu'est-ce qui est japonais. Donc, la nourriture japonaise, une pièce japonaise, un vêtement japonais, on va dire wa. Donc, wa shoku, wa fuku. Donc, vraiment, ça va être ce wa de l'harmonie. Mm. Même dans l'ère du Japon qui est présentement là, en règne là-bas, c'est re-wa. Et c'est ce même wa de l'harmonie qui est là dans le nom de son ère. Et le cho, c'est la recherche. Mm. Donc, c'est une recherche profonde. Là. C'est vraiment qui ne se finit pas. Donc, la recherche de l'harmonie. C'est un peu comme ça qu'on le résumerait.
Puis on dit que c'est une philosophie, que c'est un ensemble de pratiques pour modifier le regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur les autres. Donc, quelles sont ces pratiques?
Mais en fait, je pense, puis elle démontre bien à travers ce livre-là qui est assez fascinant, c'est quelque chose qui est transversal, qui va être partout, mm-hmm. hein, qui va être à la fois dans notre rapport à la nature, où on n'oublie jamais qu'on fait partie de la nature, qui va être dans notre rapport aux saisons, donc de suivre le rythme qui nous entoure, donc dans les couleurs, dans ce qu'on va manger, donc c'est dans l'alimentation beaucoup aussi, c'est dans le respect de l'autre, c'est dans la lecture de l'atmosphère. J'ai beaucoup aimé quand elle a dit ça. On lit l'atmosphère, on fait attention aux autres. Moi, je dis souvent, apprendre le japonais m'a appris quelque chose que j'ai rapporté dans mes relations, même en français. C'est-à-dire que, étant donné que la langue japonaise est tellement structurée différemment que le verbe est à la fin, par exemple. Ça, c'est drôle parce que je l'expliquais avec des japonais. Oui, le verbe est à la fin. Et ça fait qu'on ne peut pas interrompre quelqu'un avant qu'il ait fini de parler.
Parce qu'on ne sait pas de quoi il parle exactement.
Ben non, c'est ça. L'essentiel est en fin. Fait que là, j'explique à mes élèves, tu sais, la pomme, est-ce que tu l'as achetée? Est-ce que tu l'as lancée? Est-ce que tu l'as mangée? Je ne sais pas avant que j'aie fini de t'écouter. Donc, il faut que j'attende la fin. Tandis qu'en français, ben, si tu m'as vu et tu vois que ma pomme est sur la table toute mangée, tu sais que je l'ai mangée. Fait que quand je veux dire j'ai mangé, tu vas dire oui, une pomme, tu vas me couper avant, puis ça sera pas grave, parce que c'est un complément. Mais ça, les Japonais ne couperont pas parce que justement, l'essentiel est là. Puis cette idée-là d'écouter, de lire l'atmosphère, je pense que même en français, je l'ai ramenée. Je fais plus attention maintenant à ce que je faisais avant parce qu'à force de vivre dans ce retour qui est obligatoire, on fait plus attention même quand on va parler français. C'est pour ça que parler d'autres langues, des fois, ça étend beaucoup notre façon de vivre, même quand on revient dans notre langue d'origine. C'est quelque chose qu'elle m'a beaucoup touchée parce qu'il y a beaucoup de choses que j'utilise dans ma propre vie qu'elle nommait. Donc, je trouve que... Mais en même temps, j'ai trouvé que cette façon-là qu'elle avait de lire le wa et la recherche de l'harmonie au Japon, elle était très singulière. Parce que souvent, on va reprocher à cette obligation de vivre en harmonie, on va reprocher au Japon de les obliger à ne pas aller au-delà des normes sociales. On va dire que ça fait beaucoup de pression sur les enfants. Ça les oblige à ne pas, à supprimer beaucoup leur individualité, à ne pas dire leur opinion, à ne pas aller dans la différence, à ne pas s'assumer. Et elle le nomme ça aussi. Puis elle, en fait, elle dénonce ça. Elle dit, ce n'est pas ça, l'harmonie. C'est une mécompréhension de ce que ça devrait être. Je me suis longtemps sentie mal de ça, c'est ce qu'elle dit, de ne pas être comme les autres, de chercher l'harmonie, mais un peu différemment. Puis finalement, j'en viens à croire que c'est pas d'essayer d'être toute pareille, c'est pas ça vraiment rechercher l'harmonie, au contraire. Donc, je ne sais pas si les Japonais seraient d'accord complètement avec sa représentation du Choa, mais je l'ai trouvé très riche et très un peu comme un pont entre le Japon et l'Occident, parce qu'elle a vécu beaucoup en Angleterre. Donc, on voit qu'elle a ce souci-là de dire, écoutez, l'Occident nous a beaucoup influencés, nous, au Japon, mais le ramenons, qu'est-ce qui est bon, puis pourquoi on ne peut pas l'intégrer aussi dans notre façon de vivre en Occident? Donc vraiment, c'était une belle lecture. Je te remercie de me l'avoir fait découvrir.
Et ça doit être d'autant plus fascinant que Akemi Tanaka, ce que j'ai lu, c'est qu'elle est fille d'une famille de samouraïs. Donc, elle a vraiment vécu profondément les traditions japonaises ancestrales.
Oui, puis elle a dû donc subir aussi cette idée-là de la pression, de convenir à ce qu'on attend de toi en tant qu'enfant qui descend d'une belle lignée de cette génération-là qui est très importante au Japon. Nous, on est un pays tout neuf quand même, neuf si on exclut les autochtones, bien sûr. Mais dans le sens que le Japon, lui, il se repose sur ses 2-3 000 ans. Hein, donc, et ils ont répertorié cette histoire-là. Donc, sortir de cette espèce d'idée de ce que c'est, que ça doit être le wa, de ce que ça doit être un enfant qui fait bien ça, de comment tu dois agir, c'est peut-être plus difficile à casser. Notre histoire à nous, si on prend juste là, ceux qui sont arrivés il y a 400 ans, ça remonte à peu de temps. On n'a pas autant de pression de correspondre à un idéal, parce que déjà, les colons qui étaient venus ici avaient brisé un peu l'image de ce qu'on était supposé faire en France. Ils avaient déjà fait un pas de côté. Donc, elle fait ça. Elle explique que non, ce que ça devrait être la recherche, c'est oui, puis d'aller chercher toute cette idée que que le malheur fait partie aussi de la vie. Oui. J'ai aimé le fait qu'elle rattache souvent la géographie du Japon au fait que ça a influencé leur culture. Je pense aussi, comme elle, qu'au Japon, on a plus de soin à revoir, à admirer, à apprécier l'éphémère.
Oui.
Que ce soit la beauté d'une fleur, que c'est maintenant qu'elle est belle, parce qu'on ne sait pas si elle va être encore là dans 2 heures.
Mais je lisais aussi sur se préparer pour le pire et on apprenait justement que ce livre-là, Akemi Tanaka, ça a été un peu son testament parce qu'elle est décédée quelques temps après la publication.
Oui, elle est décédée cette année, en fait, d'un cancer qui a été assez rapide, là. Donc, puis c'est de vivre chaque moment. Hein. Le Japon est un pays, il y a 4 plaques tectoniques qui s'entrechoquent, donc leur longue histoire... C'est aussi beaucoup de pertes, beaucoup de tragédies. Et ils ont toujours reconstruit et ils ont développé autour de ça l'idée que tu ne peux pas retarder à demain ce qui doit être vivre maintenant. Tout comme les choses bonnes passent, les choses du malheur aussi, tu dois les prendre et les intégrer. Il y a un proverbe, d'ailleurs, qu'elle met dans le livre, c'est « le malheur peut être un pas vers le bonheur ». Ça ne veut pas dire que ça devait faire partie de ton destin, puis on ne peut rien y faire, puis il fallait que tu vives ça. Non, c'est pas ça. Les Japonais ne sont pas de ce genre d'idée du destin, mais c'est plus de dire « on ne peut rien y faire ». Il y a quelque chose qui existe en japonais qui m'a toujours un peu... énervée, puis grâce à elle, je me suis peut-être réconciliée avec cette affirmation. C'est la fameuse phrase katakanai qui veut dire on peut rien y faire, c'est comme ça, puis that's it. Je trouvais que c'était un peu comme abandonner les efforts, tu sais, dire on peut rien y faire, fait que faisons donc rien. Mais elle le voit pas comme ça. Elle dit qu'on peut pas toutes porter les responsabilités en tant qu'individu. Il y a des choses qui sont plus grandes que nous. On peut bien sûr changer des choses, là, c'est certain. Elle renie pas ça, qu'on a un pouvoir sur certains changements. Mais il y a des choses qui sont là. Tu sais, il y a un feu qui dévaste toute ta ville, ben, tu peux pas rien y faire. Donc, au lieu de dire, oh mon Dieu, c'est terrible ce qui est arrivé, c'est terrible ce qui est arrivé, comment je veux, c'est de dire, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et ça, j'ai trouvé ça très touchant qu'elle aborde ça aussi, qu'elle aborde le beau, le bon, mais aussi qu'elle montre que ça s'applique plus largement que ça. Parce qu'on a une idée que le bonheur, c'est quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose qui dure. Mais elle, ce qu'elle montre, c'est que c'est variable.
Oui.
Et que c'est correct. C'est comme ça que la vie est faite. Et il faut pas s'obstiner à chercher plus. Au contraire, apprécier ça va nous permettre d'atteindre l'harmonie. Et elle revient souvent à ce mot-là qui est la clé pour comprendre le Japon, je pense.
Hey Valérie, voilà qui est très intéressant. Je te remercie de tout cœur de l'avoir lu pour nous.
Ah ben, merci, moi, en fait, de me l'avoir proposé. J'ai photographié plein de pages du livre parce que je les trouvais très, très inspirantes pour l'avenir.
Alors, j'incite nos auditeurs à lire Le pouvoir du Showa.
Showa, oui.
Showa. Donc, La sagesse japonaise, c'est aux éditions Hugo et compagnie. Et nous étions avec Valérie Harvey, sociologue et passionnée du Japon. Merci, Valérie.
Merci, Chantal.
On s'en va en musique.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. My daddy before me,
So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
7 years de Lucas Graham. C'est rare qu'on l'on fait jouer de la musique en anglais au fil du temps, mais cette chanson, elle décrit très bien la vidéo dont j'ai envie de vous parler. C'est une vidéo que j'ai vue passer sur Facebook qui s'appelle « How to Age Gracefully ». C'est en fait une chaîne de personnes de 7 à 93 ans qui donnent des conseils à des personnes plus jeunes qu'eux. Certains sont légers et comiques. Par exemple, ce n'est pas parce que c'est un buffet où vous pouvez tout manger, donc all you can eat, que vous êtes obligé de vous servir trois fois. D'autres sont plus spirituels, comme cesser de penser à ce que les autres pensent de vous, parce qu'ils pensent d'abord à eux et vous remarquent peu. Et c'est assez fascinant de voir cette boucle-là parce que ça ressemble à la chanson où on passe d'un jeune âge à jusqu'à plus tard dans notre vie, parce que c'est vraiment une personne de 7 ans qui donne un conseil à une personne de 6 ans et ça se déroule là jusqu'à 93 ans. Et c'est des conseils vraiment là, il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau, cultiver nos relations amicales, des choses comme toujours faire des copies de sauvegarde de notre ordinateur. Ma préférée, c'est « Stay weird », rester bizarre. Je vois dans ce conseil-là l'importance de rester soi-même tout en profitant des conseils et de l'expertise des autres. Et quand mon premier fils a eu 18 ans, je lui ai offert un petit carnet appelé « Comment devenir un adulte pas trop tata » et ça regroupait des conseils des membres de notre famille. Donc, je pense qu'on peut beaucoup apprendre des générations, que ce soit des plus jeunes que des plus âgés. Et c'est pas mal le propos que j'avais envie de vous présenter dans cette émission, parce que c'est sûr, quand on est plus jeune, on a l'impression qu'on sait. Et en vieillissant, ben on se rend compte qu'on ne sait jamais. Et c'est d'ailleurs les grands propos de cette pièce qu'on va écouter à l'instant. « je sais » de Jean Gabin.
«
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça je le sais.
Ah, que voilà une chanson sur la sagesse, « je sais » de Jean Gabin. Si vous avez envie d'apprendre à quel point on apprend avec le temps et on se bâtit au fil du temps, je vous recommande fortement la biographie de Michel Forgette qu'on a reçue avec grand plaisir aujourd'hui. Ma foi, on aurait pu le garder encore longtemps. J'avais préparé plein de questions. La biographie s'appelle « Délinquant un jour, hein, artiste toujours » aux éditions La Semaine. Plaisir également d'avoir eu avec nous Valérie Harvey, sur le pouvoir de la Chowa, la sagesse japonaise aux éditions Hugo et compagnie. On peut joindre Valérie à nomades.com. Merci à notre dynamique équipe, Nicolas Wartman en studio. En régie avec nous, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne, que l'on recevra prochainement à Au fil du temps. Et la semaine prochaine, on a vraiment une émission assez spéciale. Nous allons parler de la vanité numérique et de la mort numérique et le transhumanisme. Bref, ça va être assez touffu avec Nadia Serayoko, que là, nous avons déjà reçue, chargée de cours et chroniqueuse techno, et Jérémy Lapierre, un conférencier jeune qui nous parle du mentorat. Imaginez-vous qu'il est mentor de médecin. Une rencontre probablement fort intéressante. Alors voilà, c'est sur ceci que se conclut cette 66e au fil émission d'Au fil du temps. Et tiens, je vous souhaite des matins de tendresse, tout plein de matins de tendresse, et on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.